Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Je suis Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, mon collègue et ami, monsieur Marc Bouchard. Salut Marc.
Monsieur.
Monsieur.
Depuis quand tu m'appelles monsieur?
Ben, je peux t'appeler madame à partir d'aujourd'hui si tu veux, mais...
Non, c'est juste que c'est comme, il me semble, ça fait pas partie de tes traditions, là.
Ben, il me semble que je dis toujours monsieur Marc Bouchard, mais mettons, peut-être, ok, je vais réécouter les autres émissions, puis au pire, je vais rectifier le tir. Si t'aimes pas ça, je t'appelle monsieur.
Tu sais que je t'écoute pas de toute façon.
Ouais, je sais, de toute façon, mais... De toute façon, je peux trouver plein d'autres qualificatifs. Mademoiselle, madame, messire, je
sais pas. Non,
c'est ok. C'est bon.
Sir. C'est sir.
Sir Marc Bouchard. Donc, Marc, salut, j'espère que ça va bien.
Ça va très bien, toi.
Ben, ça va très bien. Juste pour commencer, là, encore une fois, je vais vous achaler pour la dernière fois. En fin de semaine, donc samedi le 9 juin, si vous êtes dans le coin de Saint-Zotique, vous avez le temps de venir faire un tour à Saint-Zotique, on lance les bornes de recharge. Donc, on va les inaugurer. C'est entre, je pense que c'est 10h30 et 14h30, puis après ça, il va y avoir de l'animation et tout ça. Si vous venez en voiture électrique, votre entrée va être gratuite. Sinon, ben, il faut payer, mais c'est pas tellement cher là, pour une famille. Il me semble, j'ai pas les prix, là, mais il me semble, c'est pas tellement cher. Puis venez passer une belle journée à la plage. Il va y avoir le casse-croûte va être ouvert. Vous allez pouvoir voir des voitures électriques. Et supposément qu'on va avoir une Tesla 3 sur place. Bon, je me suis fait dire qu'il y aurait quelqu'un qui venait avec sa Tesla 3 qui l'a reçue cette semaine. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, cette bête-là en chair et en os ou en métal et en pneus, peu importe. Mais j'ai hâte de l'avoir en vrai, donc on va voir ce que ça va donner. Puis on va peut-être essayer de recueillir les impressions du conducteur. Je vais essayer d'enregistrer des choses là-bas là, pour l'émission de la semaine prochaine. Donc peut-être enregistrer un bloc avec Martin Archambault, puis parler aux gens de l'AVEC, puis aussi peut-être parler au propriétaire de la Tesla 3, voir comment ça s'est passé, le processus d'achat et tout ça. Quelque chose qui pourrait être intéressant. Et ses premières impressions de la voiture aussi.
Il est rendu à 77 ans, il a commandé ça il y avait 23 ans. Oui, c'est ça.
C'est ça, puis elle vient d'arriver. Bon, la couleur vert forêt qu'il a commandé puis à mode aujourd'hui, mais bon, je veux dire, quand même, il y a sa Tesla 3. Donc, Marc, c'est tout pour ça. Toi, tu voulais nous parler d'un voyage que tu as fait récemment pour aller essayer le nouveau Acura RDX.
Oui, très, très, très récemment. En fait, je suis revenu mercredi soir, d'ailleurs au milieu de la nuit suite à certains périples qu'on n'avait pas prévus, mais en tout cas, effectivement, on s'est rendu à Tofino, en Colombie-Britannique, pour aller essayer la Acura RDX. Or, on en a déjà parlé de la région de Tofino, c'est un endroit où vraiment la route est absolument incroyable pour une conduite dynamique. Ok, beaucoup, beaucoup d'élévation, de descente, des virages qui sont parfois un peu agressifs. Alors, tu te dis, ouais, mais pourquoi je m'en vais là avec un utilitaire sport, un multisegment plus qu'un utilitaire sport dans le cas du RDX?
Okay.
Mais en fait, ils l'ont tellement redessiné, ils l'ont tellement amélioré que je peux te dire qu'on a eu beaucoup de plaisir avec le fameux RDX.
Okay.
D'abord, physiquement, il a beaucoup changé. On l'a étiré d'à peu près 60 mm au total au niveau de l'empattement. Donc, ça donne plus d'espace pour les passagers arrière. On a aussi éliminer l'espèce de grille qui avait l'air d'un rasoir électrique là, qui était en avant, qu'on aimait plus ou moins. Maintenant, on a vraiment la grille qui s'appelle... Tu te rappelles peut-être de la grille Precision, je sais pas quoi, là, chez Acura.
Ou ouais, l'ancienne grille là, qui avait l'air d'un rasoir, là, non?
Non, la nouvelle, la précision, okay. Quelque chose qu'on a mis sur les récents prototypes.
Ouais, c'est beaucoup plus joli. Là.
C'est ça. C'est celle-là qui est maintenant sur les nouveaux Acura RDX. On a amélioré les blocs optiques, on a modifié plein de choses. Bref, honnêtement, du point de vue du look, là, ça donne un véhicule qui est plus affirmé, là, qui a une personnalité plus oomph un peu, là, plus méchante un peu.
Ouais. Ça, c'est plus joli aussi. Les anciennes grilles, là, c'était vraiment affreux. Là. Au moins, là, ça ressemble à une voiture plus qu'un extraterrestre. Ouais.
Effectivement.
Okay. C'est bon.
Assis à l'intérieur, on a aussi considérablement refait l'habitacle. Quand je dis considérablement, c'est presque totalement. En fait, il faut savoir qu'on a refait le véhicule au complet, là. C'est une nouvelle plateforme qu'on a refait, un châssis qui est 38% plus rigide, qui utilise comme il se doit de l'acier rigide puis de l'acier moins rigide pour éliminer les chocs. Bref, on est vraiment là dans ce monde-là. Alors, on a fait vraiment quelque chose d'intéressant. À l'intérieur, ben c'est assez le chic, là. C'est bien fait, comme Acura sait le faire, c'est-à-dire ce qui a l'air en cuir est en cuir, ce qui a l'air en bois est en bois, là. C'est pas des imitations, c'est du vrai.
Pas du plastique qu'on a fait bien paraître, là.
C'est ça, là. On s'assume pleinement. C'est sûr qu'il y a plusieurs versions disponibles. Ça part du RDX de base, qui est à 42 000 $, qui lui a comme siège en tissu, puis qui est un peu plus élémentaire, jusqu'au Platinum Elite, qui lui est vraiment le top du top, là, avec tout ce que tu peux t'imaginer comme, comme qualité de finition.
Avec un prix conséquent, j'imagine.
Ben, 53 000.
OK, c'est quand même pas si pire pour la grosseur.
C'est honnêtement, puis, ouais. Honnêtement, moi, je l'ai trouvé très, très, très compétitif.
OK.
Bon, au niveau de l'habitacle, cependant, on a modifié des affaires. Alors, parmi les nouveautés, entre autres, il y a les cadrans qui sont devant le conducteur, qui sont vraiment plus jolis qu'auparavant. Pas trop chargé, avec un écran central que l'on peut modifier, donc on peut jouer avec l'affichage pas mal. Ça nous permet d'avoir accès à une belle information, et ça, c'est bien fait. Là où c'est un peu moins réussi, à mon avis, cependant, c'est dans la console centrale comme telle. Parce que, bon, comme Acura le veut, on a éliminé le levier de transmission, c'est maintenant des boutons. Là.
Ouais.
Ça, on aime ou on aime moins.
Bon, je pense que la majorité aime moins, mais tu gagnes de l'espace, donc ça a un but précis. Mais côté design puis côté facilité d'utilisation, on repassera par exemple.
Exactement. Ouais. Mais en tout cas, quand même, c'est là. Ça, c'est la première chose. L'autre élément, c'est qu'on a, on utilise maintenant un système qu'on a appelé le True Touch. C'est les fameux pavés tactiles. Pour jouer avec le doigt, un peu comme Lexus, là,
okay.
Pour manipuler le système multimédia. Tu as un grand écran qui est en haut de la console centrale, qui est trop loin pour que tu puisses y toucher.
Okay.
Donc, il n'est pas tactile, lui. Mais entre les deux, tu as une espèce de pavé tactile divisé en deux qui permet de contrôler les deux côtés de l'écran.
Un peu comme une souris d'ordinateur portable, une espèce de pavé là, qu'on sert à la place de la souris. Là.
Oui, mais eux autres, en plus, ils l'ont divisé en deux.
Okay.
Fait que tu as la moitié, mettons, le quart de l'écran à droite qui affiche une information, qui a son propre pavé tactile, puis tu as le trois quarts qui affiche une autre information, puis qui a son propre pavé tactile.
C'est pas trop compliqué pour rien, me semble?
C'est hyper compliqué pour rien.
Okay.
Et non seulement c'est hyper compliqué pour rien, mais c'est pas précis. Ben, pas précis. C'est sûr que quand t'es arrêté puis que tu joues dedans, c'est facile de le manipuler.
Ouais.
Mais, si, tu sais, là, j'ai changé quatre fois de poste puis j'ai effacé deux fois à destination sur le GPS en roulant, là, tu sais.
Ouais.
Parce que t'es toujours à regarder ce que tu fais. Honnêtement, j'ai trouvé ça hautement détestable. J'ai vraiment pas aimé cet élément-là. C'est dommage parce que le système de son dans le char qu'on avait, là, c'était quelque chose.
Okay.
Je pense qu'il y a 16 haut-parleurs, dont 2 dans le plafond. C'est vraiment impressionnant. Mais la manipulation comme telle est assez complexe et pas nécessairement super agréable.
Non, mais c'est pas les seuls. Il y a beaucoup de manufacturiers qui ont l'air à se foutre carrément de l'ergonomie puis du côté intuitif d'utiliser un système de multimédia. Tu roules quand tu l'utilises. Tu devrais pas être obligé d'enlever tes yeux de la route pour changer de poste ou pour choisir une autre chanson dans ta clé USB ou peu importe. Là. C'est juste, ça n'a juste pas de sens.
Mais c'est sûr que tu as toutes les commandes redondantes au volant. Donc, ça permet à ce moment-là de peut-être de contrecarrer ça, si tu veux. Là.
Ouais.
Mais en même temps, j'ai trouvé ça compliqué pour rien. Et c'est probablement le plus gros défaut du véhicule.
Okay. Okay.
Pour le reste, du point de vue du confort, bon, l'habitacle n'est pas aussi bien insonorisé que j'aurais souhaité, honnêtement.
Ouais, pour un véhicule de ce prix-là, pourtant, ça devrait être une des priorités.
Oui, puis m'a dire, écoute, on roulait, il pleuvait à plein ciel à un moment donné. Puis quand on roulait, là, vraiment, ça, on entendait l'eau rentrer dans les arches de roue. Là.
Ouais,
okay. Ça m'a un peu dérangé.
C'est quasi inacceptable, je dirais, pour un véhicule comme ça.
Mais à un moment donné, il faut dire qu'il y en avait beaucoup. C'est probablement que dans des meilleures conditions, c'était moins pire que ça.
Ouais, peut-être.
L'autre élément, c'est que tu as trois modes de conduite. Okay? Tu as le mode 4, tu as le mode neige, tu as le mode confort, tu as le mode sport, tu as le mode sport plus. En mode sport et sport plus, on joue avec la sonorité du moteur en trichant par le biais du système de son.
Ouais. Ce qui est commun maintenant. Là.
Exactement.
Ouais.
Fait que, sauf que ça donne au moins une bonne sonorité, puis ça élimine un peu les bruits ambiants. Là. Fait que ça, c'est la partie qui est quand même intéressante.
Okay.
Mais la vraie partie intéressante, c'est la conduite. Écoute, sous le capot, c'est un moteur 4 cylindres 2 litres. C'est le même, en fait, que la Honda Accord.
Okay.
272 chevaux, 280 livres-pieds de couple. Jumelé à une boîte de vitesse 10 vitesses, bon. Ce qui est une première dans le segment. Et là, je m'attendais que, comme toutes les 10 vitesses, ça soit pénible, ça soit tough, que ça, tu sais, que la transmission passe son temps à changer de vitesse puis tu sacs un peu, là.
Mm-hmm.
Pas du tout.
Ah non?
En fait, pour être franc, on avait presque l'impression que c'était un double embrayage par certains moments, tellement elle réagit rapidement. Elle peut même rétrograder jusqu'à 4 rapports en même temps. d'un poussin.
Okay. OK.
Donc, écoute, elle s'adapte super bien. Elle est hyper efficace, hyper rapide. Le moteur est relativement nerveux pour un petit moteur turbo 2 litres. Alors, ça permet, quand tu le mets en mode Sport Plus, parce que chacun des modes intervient sur à peu près tout. Là. Les suspensions, la direction, le freinage, l'accélération, le bruit du moteur, tu sais, là, les rapports de transmission, tout est affecté par ça.
Okay.
Et c'est vraiment là, en mode Sport Plus sur la route entre Tofino et Port Alberni, là où on s'en allait, je te jure que c'est vraiment spectaculaire. Ça se conduit du bout des doigts. C'est vraiment beaucoup plus sportif. C'est sûr que si tu la laisses en mode confort, c'est moins évident un petit peu, mais en mode Sport Plus, honnêtement, c'est un excellent, excellent boulot. En mode confort, sur le retour, on a conduit de façon moins dynamique un peu sur le retour et on a fini à 9,1 litres au 100.
Ce qui est excellent.
Ce qui est vraiment excellent. Ouais. Alors honnêtement, c'est un véhicule qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné dans sa façon d'être, dans sa façon de se conduire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup trippé dessus. Honnêtement, plus que ce à quoi je m'attendais. Le RDX a toujours été le plus sportif, si tu veux, de la famille Acura. Je m'attendais que, comme la plupart des autres véhicules, on l'ait un peu en bourgeoisie. Pas du tout. On a fait un excellent travail là-dessus. Vraiment, là, je suis favorablement impressionné. Et comme je te l'ai dit, pas si dispendieux malgré tout. 42 à 53, 54 000 pour plusieurs versions. Là, comme je disais, tu as le RDX de base, tu as le Tech, tu as le Elite, tu as le... Ah, un autre détail, tu vas avoir un A-Spec aussi.
OK.
Le A-Spec, parce qu'on dit que maintenant, Acura va avoir un A-Spec dans tous ses véhicules.
Qui est la version plus sportive encore?
Ouais, mais mécaniquement, il n'y a pas de changement. C'est essentiellement au niveau esthétique, surtout au niveau de la grosseur de roue, par exemple.
OK.
Évidemment, ça affecte un peu la consommation de carburant, mais c'est essentiellement sur la base de l'esthétique qu'on a modifié. Fait que le A-Spec va aussi être disponible. Un peu plus cher que le Elite, moins cher que le Elite Platinum. Bref, on joue un peu avec l'échelle de prix. Là.
Bon, c'est bon, on va regarder ça. Mais ça va faire du bien parce qu'Acura perdait des plumes à vitesse grand V là, depuis une couple d'années. Les gens n'aimaient pas nécessairement la conduite, n'aimaient pas nécessairement non plus le design des voitures. Fait. Puis si on regarde aussi la fiabilité, Acura était vraiment, vraiment plus bas qu'Honda dans l'indice de fiabilité de J.D. Power, ce qu'on regardait. Fait que j'espère que tout ça va remonter parce que c'est une marque que les gens aimaient beaucoup. Il y a des gens qui ne juraient que par Acura quand ça s'est apparu parce que c'était un Honda de luxe. Puis Honda, on savait c'était fiable puis tout ça, puis c'était le fun à conduire. Puis ils ont perdu ça depuis les dernières années. Fait que c'est le fun de les voir un peu revenir dans ce marché-là parce qu'ils se sont fait dépasser par Lexus, par Infiniti là, dans les dernières années. Fait que ça va être bien de les voir prendre un petit peu du poil de la bête là, puis compétitionner avec les autres.
Tout à fait d'accord avec toi, mon cher.
Super. Donc, Marc, on va faire une pause là-dessus puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de faire nos essais de la semaine. Et tu as essayé quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose que je ne croyais jamais que tu essayerais à l'émission. On va parler d'un vélo électrique. Tu as essayé le Explorer d'une compagnie qui s'appelle Giant.
Exactement. C'est le E-Explorer, en fait.
OK, E-Explorer.
Ouais. Puis c'est vraiment un vélo que... écoute, j'ai des amis qui s'appellent Vertige Vélo Sport. C'est une compagnie ici à Saint-Hyacinthe qui sont des spécialistes du vélo, des vrais cracks, là, des vrais fous. Sauf que moi, j'ai comme tu connais ma grande forme physique, j'ai décidé de me mettre en forme un peu, puis bon, je voulais avoir un petit vélo. Puis tout. Ils m'ont dit, tu devrais essayer ça. Faut que je vous dise que c'est pas un vélo qui est 100% électrique. C'est un vélo qui nécessite quand même l'intervention du conducteur.
OK.
Fait que, puis t'as 5 modes de conduite. Donc, tu peux avoir la version éco jusqu'à la version Sport Plus, un peu comme en auto. C'est un vélo traditionnel avec un dérailleur Shimano, avec un cadre en titane et tout là. T'sais, c'est vraiment un vélo traditionnel, mais il y a un moteur électrique et une batterie. Moteur électrique qui se recharge en quelques heures, mais batterie plutôt qui se recharge en quelques heures et qui permet d'avoir une autonomie jusqu'à 140 à 160 km.
OK. J'imagine qu'il n'y a pas de borne 240 là-dessus ni de BRCC. Là. C'est une prise 110.
Non. D'après moi, si tu prends ça sur une BRCC, tu vas être dans le trouble solide.
Faire exploser le vélo.
Exactement. Mais, ceci étant dit, c'est quand même intéressant au niveau du vélo parce que, selon le mode que tu choisis, ben, ça va te donner plus ou moins d'assistance.
Okay.
Donc, si tu y vas en mode Sport Plus, tu vas être bon pour 70 km ou à peu près, mais tu vas rouler sur un sale temps. Là. T'sais, moi qui ne suis pas un cycliste du tout, je roulais aisément entre 30 et 35 km/h.
OK. Ouais.
OK. Bon, évidemment, j'étais de toute beauté avec mon casque. Rassurez-vous, je n'ai pas mis de short en lycra.
Ah, OK. Ouais. Ça, c'est quand même mieux. Mais as-tu pris une photo de toi avec ton beau petit casque? Ou t'avais-tu
le... Non. J'ai acheté le casque parce que je vais faire du vélo. Fait que tu auras l'occasion de me voir. Mais là, j'ai décidé de me garder une petite jeune pareil.
Okay.
Sauf que honnêtement, c'est ça. C'est J'ai trouvé ça intéressant parce que, pour moi, ça aurait pu devenir un moyen de transport beaucoup plus quotidien.
OK.
Parce que oui, quand je l'ai eu, je suis allé à l'épicerie acheter une coupe d'affaires avec et c'était plus facile pour moi de m'en servir. C'est sûr que tu vas me dire que tu peux faire ça avec un vélo ordinaire, tu as raison, mais on a tendance à pas le faire, on est un peu paresseux. Alors, je trouvais que c'était une façon agréable et intéressante de réintégrer le vélo dans mes activités quotidiennes, puis de me permettre aussi de pas trop me limiter en termes de... En termes, je dirais, d'espace puis de façon dont je me déplace.
Okay.
Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cet élément-là. J'ai beaucoup aimé le fait que, bon, c'est confortable, ça se conduit comme un vélo traditionnel. Sérieusement, c'est une option que vous devriez tester et envisager. C'est vraiment le fun. J'ai trouvé ça très agréable. C'était facile de faire 20-25 km d'affilée sans problème. Alors que pour quelqu'un qui a zéro cardio comme moi, 25 km, c'est un solide défi, là.
Ouais.
C'est honnêtement, je le faisais. Je suis allé acheter des biscuits pour chiens à l'animalerie qui était à 8 km de chez nous. Puis j'ai fait l'aller-retour avec mon petit pack sac sur le dos juste pour aller chercher des biscuits pour chiens.
Okay.
Ce que je n'aurais pas fait avec mon vélo traditionnel.
Ouais, ouais.
Puis l'autre élément, c'est qu'évidemment, avec l'assistance électrique, ben, tu es beaucoup moins victime du vent. C'est plus facile pour toi de lutter contre le vent.
Ouais, parce que le vélo va t'assister, le moteur électrique va t'assister pour t'aider à maintenir ta vitesse. Puis, ouais,
OK. Honnêtement, là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça vaut 2 800 à 2 900 $ ou à peu près.
Ouais.
Évidemment, il y a plusieurs modèles. Moi, celui de Vertige, là, comme je te dis, c'est le Giant Explorer. Écoute, frein à disque là-dessus, tout est là-dessus. Là. C'est vraiment là. C'est le grand luxe, le grand confort. Sincèrement, c'est une expérience que je vous recommande. Évidemment, j'ai pas passé toute la semaine là-dessus. À la Montréal, avec ça, j'aurais trouvé ça un petit peu long. Mais quand même, honnêtement, c'était une expérience et je tenais à vous en faire part parce que je trouve que vraiment, c'est une alternative fort intéressante.
Ça prend juste un budget conséquent là, pour avoir 2000 quelques dollars pour se payer un vélo. C'est quand même pas de données. Mais
entre toi et moi, je m'excuse, là, mais va te promener dans les magasins de vélos maintenant. Là. Puis des vélos à 2000 piastres.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Faut que tu fasses attention pour t'en faire jeter dedans. Là. Je veux dire, il y en a partout. Bon, moi, la même gang chez Vertige l'année passée, il y a 2 ans, je suis arrivé avec la Nissan Micra de base qui valait à l'époque 1 995 $.
Mm-hmm.
Et ils m'ont dit, ah, nous autres, on a quelque chose pour toi. Alors, ils m'ont fait essayer un vélo qui valait plus cher que la Nissan Micra de base.
Bon, tu vois? Tu mets ça dans la valise de ta Micra, puis ton auto vient de prendre le double la valeur.
Ah non, c'était ridicule. Écoute, elle valait, la bicyclette valait aux alentours de 15 000 $.
OK, ouais, faut être décidé.
C'est un char à ce prix-là. Là. Oh, puis il y en a des plus que ça. Là. Puis eux, chez Vertige, ils font vraiment, ils ont beaucoup de ce genre d'affaires-là. Honnêtement, je suis impressionné qu'il y ait autant de monde qui font ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font. Moi, je suis pas capable de le faire, pas juste du point de vue du budget, là, du point de vue de la forme physique. Alors, le Giant m'a bien servi à ce niveau-là. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié.
Super. Mais t'as essayé d'autres choses aussi d'un peu plus rutilant. Même une voiture que je pourrais dire, une de mes voitures de rêve que j'aurais probablement malheureusement jamais l'occasion de conduire, d'essayer la Jaguar F-Type.
Oui, la F-Type. En fait, la F-Type qui est la coupée que j'avais, pas la cabriolet, qui est disponible en plusieurs versions. Le coupé 2 litres qui fait 296 chevaux, quand même, c'est intéressant. Évidemment, tu peux aller jusqu'à beaucoup plus loin. Là. Tu peux aller jusqu'à la SVR coupée qui, elle, vaut 139 000 $ et qui est propulsée par un moteur de fou là, de 575 chevaux.
Mm-hmm.
Mais c'est pas celle-là que j'avais. Là. Moi, j'avais la version de base. Mais qui est quand même une auto fort intéressante. Elle se conduit bien. Elle est un peu lourde, il faut l'avouer. Mais on s'en fout un peu. L'idée, c'est vraiment... c'est une voiture que l'on conduit beaucoup pour le look,
ouais.
Que l'on conduit vraiment beaucoup pour le style. Elle est confortable. La mienne était d'un bleu vif, là. Vraiment vif. C'est vraiment assez particulier comme véhicule. Très confortable, très Jaguar à l'intérieur, avec écran tactile, vraiment le grand confort. C'est une voiture qui, bon, évidemment, c'est la plus petite version que j'avais, donc il manquait peut-être un peu de sonorité, mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est quand même d'une bonne précision sur la route, dynamique, et qui est confortable malgré son format très sportif. Alors, honnêtement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la F-Type. En fait, pour être honnête avec toi, puis c'est pas pour t'écœurer, mais presque chaque année, j'en conduis une, et chaque fois, je passe un temps fort agréable agréable à son volant. Automatique 8 rapports, évidemment, sur une propulsion. Je l'ai dit, c'est 296 chevaux. 295 livres-pieds de couple sur le moteur 4 cylindres 2 litres, qui est un moteur turbo, évidemment. Bien sûr, c'est pas un modèle d'économie. Là, on parle de 10 litres au 100 ou à peu près. Mais c'est une voiture qui est quand même fort, fort, fort agréable. Selon le manufacturier, 0 à 100 en 5,7 secondes, ce qui est bien amplement pour ce genre de véhicule-là.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est comme tu disais, c'est le design de cette voiture-là qui est assez incroyable. C'est vraiment beau. Là. Les lignes sont vraiment magnifiques. Hein. C'est une belle voiture.
Oh ouais, c'est un look absolument spectaculaire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Bref, je me suis bien amusé à ce volant-là. Donc, j'ai partagé mon temps entre mes jambes et mon look.
OK.
Tu vois? Ouais. Entre le vélo et la belle voiture.
OK.
Mais toi, tu as essayé d'autres choses aussi. Là.
Ouais, moi, j'ai essayé quelque chose d'un peu plus... un peu plus normal et un peu plus économique. J'étais au volant de la Optima PHEV. Ça fait un petit bout de temps là, que j'ai conduit cette voiture-là. J'étais un petit peu en retard dans mes essais sur l'émission parce que j'ai manqué une émission puis ça a reculé. J'ai des autos pareilles qui arrivent, donc j'étais un peu en retard. C'est la voiture qu'on a pris pour aller au tournoi de Kinball de mon fils à Québec. Et puis, j'avoue que normalement, tu sais, on a toute l'espèce de on va tout penser qu'une voiture hybride, c'est pas nécessairement bon sur l'autoroute, c'est que c'est pas aussi économique sur l'autoroute. Juste pour vous dire, j'ai fait l'aller-retour à Québec en plus d'avoir fait ma semaine entière, parce que j'ai fait toute ma semaine aller-retour au travail, brancher la voiture le soir quand je revenais pour qu'elle soit pleine le lendemain, repartir. On parle d'environ 45-47 km d'autonomie en pleinement électrique, puis après ça, on tombe en mode hybride. Ensuite, je la branchais au bureau pour la remplir le plus possible avant de repartir pour m'en revenir le soir. Puis là, je refaisais un bout électrique. Et puis après ça, le week-end, on a fait notre voyage de chez nous, Saint-Zotique, à Québec. Mais c'était Lévis, là. Puis retour. Puis ce que j'aime bien, c'est que l'hôtel où on était à Lévis, qui était le Days Inn, si je me rappelle bien, m'a laissé brancher la voiture sur le 110 toute la nuit. Donc, quand je suis reparti le lendemain pour aller au tournoi puis revenir à la maison, la batterie était pleine. Donc, j'ai réussi à avoir un autre 47 km d'autonomie. J'ai bien apprécié. Là, donc, merci aux gens du Days Inn de Lévis. Là, j'ai beaucoup apprécié que vous me laissiez brancher la voiture. Et puis, j'ai eu une moyenne aller-retour de 4,4 litres au 100 km. Puis, j'ai pas eu besoin de faire le plein du tout. J'ai fait l'aller-retour sur la même réservoir d'essence. Donc, j'ai vraiment être impressionné. Puis c'est une voiture qui est confortable, c'est une voiture qui a beaucoup d'espace dedans. Puis j'avais des discussions avec des gens sur Twitter, quelqu'un qui me disait « Ah, tu sais, mais je préfère la Volt, t'as un plus gros rabais du gouvernement, puis t'as plus d'autonomie électrique. » Oui, mais je pense que t'as plus de confort dans une Optima que tu vas en avoir dans une Volt, par exemple. Puis dans une Optima, tu peux asseoir vraiment 5 personnes. Dans une Volt, la place centrale en arrière, là, c'est pas vraiment une place. Là. À moins que vous voulez vraiment vous débarrasser d'un ami, vous allez l'asseoir là, mais sinon, c'est deux places arrière. Le coffre est bien, mais pas aussi grand que dans une Optima. Donc, tu sais, l'Optima a ses points forts. Oui, elle est le rabais est moins grand parce que c'est un rabais juste de 4 000 $. C'est pas un rabais de 8 000 parce que la batterie est pas assez grosse, mais quand même, c'est une voiture qui est confortable. C'est une voiture qui est pas si dispendieuse que ça. Là, on parle quelque chose entre 44 795 et 47 295 là, pour la version la premium plus équipée avec les sièges en cuir et tout ça. Mais si vous cherchez une voiture hybride rechargeable, vous voulez pas nécessairement avoir tout le gros luxe, je pense que la version de base, la EX à 44 795 fait le travail. Vous enlevez 4 000 du gouvernement après les taxes, ça vous revient un peu moins cher. Puis c'est une voiture qui est amusante à conduire, qui est jolie, puis qui est efficace. Là, je pense 4,4 litres au 100 km avec les bagages et tout ça pour faire l'aller-retour à Québec, je pense que c'est très, très acceptable. Là. Fait que t'avais-tu la chance de conduire, toi, Marc, la PHEV?
Moi, j'ai conduit la PHEV, mais je l'ai conduit plus en hiver, ce qui a fait que, bon, elle était peut-être un peu moins efficace à bien des points de vue. Malgré tout, c'est une voiture... Moi, j'aime beaucoup l'Optima au départ.
Oui, moi aussi.
Dès le départ, j'aimais beaucoup ce véhicule-là. Donc, pour moi, j'étais un peu gagné d'avance. Mais oui, effectivement. Honnêtement, je t'avoue que depuis que j'ai conduit la Clarity, je trouvais quand même... Je suis plus vendu à la Clarity PHEV maintenant.
Okay.
J'ai été vraiment impressionné de ce véhicule-là. Alors, je suis obligé de te dire que l'Optima est passé pas mal deuxième. Mais effectivement, par rapport à la Volt, c'est vrai que l'espace arrière de la Volt n'est pas... n'est pas nécessairement un exemple. Par contre, tu sais, c'est quand même relativement confortable comme véhicule. Alors non, sincèrement, j'ai beaucoup aimé l'Optima. Bon, tu sais, je me garde une petite gêne sur l'ensemble de l'œuvre. J'ai trouvé que c'était une adaptation d'un véhicule à essence, qu'on n'a pas vraiment créé quelque chose de très spectaculaire avec ça. Pas un mauvais véhicule, mais pas aussi enthousiasmant que j'aurais pu l'espérer.
OK. Moi, ça m'a... Pour ce que j'en ai fait, c'est sûr qu'il y a deux choses. Nous autres, on vit avec l'auto pendant une semaine. Quelqu'un qui achète sa voiture va vivre avec l'auto pendant 4, 5, 6, 7 ans. C'est différent. Là. Nous, on l'a une semaine de temps. C'est rare qu'on ait des problèmes mécaniques et tout ça. Donc, c'est vraiment sur le coup comment que la voiture se comporte selon ce qu'on en fait la semaine qu'on l'a. Moi, j'ai été impressionné parce que je suis allé à Québec avec aller-retour, puis ça a presque pas consommé d'essence. Là.
T'es tellement impressionnant.
Mais c'est ça, je suis facile à impressionner. Regarde, je veux dire, je travaille avec toi depuis plusieurs années. Donc...
Ça, tu vois. Mais ça, c'est la bonne raison de la chose. En tout cas, okay. Oui.
C'est bon. Donc, Marc, on va terminer là-dessus, puis on va revenir après la pause avec un invité qui va venir nous parler de quoi?
Ben, en fait, c'est Catherine Fortin-Lefebvre qui va venir nous parler de l'ACADA. L'ACADA, c'est l'Association canadienne des concessionnaires automobiles. Et actuellement, les concessionnaires automobiles ont un problème. Ils ont des jobs, mais ils n'ont personne pour les combler. Alors, l'ACADA a essayé de trouver une solution pour les aider. On parle à Mme Lefebvre après la pause.
Nous sommes de retour. Et Marc, on a une invitée aujourd'hui qui va venir nous parler de carrière dans le monde automobile. Je vais te laisser nous la présenter.
Oui, en fait, il s'agit de Catherine Fortin-Lefebvre qui représente l'ACADA. L'ACADA, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Association canadienne des concessionnaires automobiles. Et l'ACADA a une initiative qui s'appelle Carrière Auto, une plateforme en fait aussi, qui s'appelle Carrière Auto. Et je vais laisser Catherine nous expliquer un peu ce que c'est exactement Carrière Auto.
Alors, c'est ça, nous, on a fait la tournée du pays, puis dans toutes les provinces, on nous a affirmé qu'il y a généralement un manque de main-d'œuvre dans plusieurs domaines reliés au poste qu'on verrait dans un concessionnaire automobile. Alors, c'est pour cela on a écouté aux concessionnaires membres, puis on a lancé un programme pour répondre à ce besoin-là, pour essayer de promouvoir les possibilités de carrière qui existent dans les concessionnaires, parce que, puis je vais vous en parler sans doute un peu plus aujourd'hui, mais on a fait plusieurs sondages, puis on nous indique que en général, la population n'est pas très au courant des possibilités qui existent.
Non, parce qu'en fait, quand on parle de ça, puis même nous, Luc et moi, on en discutait un peu hors d'onde tout à l'heure, et bon, je parlais à Luc, il y a un problème, et le premier réflexe, c'est de dire, bon, on cherche des vendeurs d'auto. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, ça va, bien sûr, le côté des ventes, il y a le côté technique, mais il y a aussi tout le côté administratif là, qui est un problème.
Exactement, exactement.
Mais quel genre d'emploi on peut trouver chez un concessionnaire qui pourrait... Parce qu'on a des auditeurs, nous, qui viennent de partout. Et quel genre d'emploi peut s'adresser à tout le monde, en fait?
Alors, n'importe qui a un background en commerce, c'est toujours des postes pertinents chez des concessionnaires. Alors, quand on parle de postes reliés à la gestion, à l'administration, à la comptabilité, au TI, au marketing, au design graphique. En fait, n'importe quel poste qu'on verrait dans un commerce sont des postes qu'on a besoin de combler chez les concessionnaires. C'est certain que le côté des ventes et le côté technicien, c'est aussi vraiment très recherché. Mais on a toute une gamme. Puis quand on pense au concessionnaire, le concessionnaire de 2018, c'est plus la même chose que la perception des concessionnaires qu'on avait il y a 20 ans. Ils sont beaucoup plus novateurs, modernes. C'est vraiment des belles places où travailler. Puis il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors, on veut vraiment, c'est ça notre message, c'est que oui, on a besoin des gens en vente, ça c'est certain, puis nos sondages l'indiquent, qu'il y a un manque là, mais aussi beaucoup d'autres possibilités.
Ouais, tu parles d'un sondage, vous venez d'en faire un récemment qui est un peu troublant, là. C'est quoi les résultats de ce sondage-là?
Bien, troublant, on peut le regarder d'une façon positive, ça serait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Alors, pour les gens qui se cherchent des emplois, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir que on a au-delà de 3000 concessionnaires de nouvelles voitures et de camions partout au pays. Alors, en tout, ça représente environ 150 000 positions. Puis ce chiffre, on croit qu'il va continuer à grandir. Donc, puis c'est des commerces qui embauchent. Alors ça veut dire qu'on a des possibilités partout à travers le pays dans différents postes. C'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, quand on a demandé aux concessionnaires de l'ACADA, on a vraiment eu une bonne réponse d'eux en temps de... Parce que tu sais, des fois, ça peut être difficile d'avoir des réponses à des sondages. On sait que c'était des gens très occupés. Puis, on a eu beaucoup de réponses. Puis, ils ont dit, écoute, on a vraiment besoin de la main-d'œuvre qualifiée. On a besoin des nouvelles personnes, des gens qui sont ambitieux, qui ont hâte de travailler, parce que nos recettes sont, pour la plupart des concessionnaires, continuent à grandir. D'ailleurs, l'année passée, les chiffres d'affaires étaient très impressionnants, au-delà de 150 milliards à travers le pays. C'était une année record de recettes, qui veut dire que l'industrie est très en santé, puis qu'on a besoin des nouvelles personnes. Donc, ça nous revient aussi que le technicien, la technicienne, c'était vraiment le poste qui était plus à combler partout. Si on regarde le sondage comme tel, on nous dit que de tous les gens qui ont répondu, près de 78% ont dit qu'ils vont embaucher dans l'atelier. Donc, des techniciens et des techniciennes de service d'ici la prochaine année. 75% ont dit qu'ils embaucheraient dans le domaine des ventes. Mais on a aussi vu que l'administration, la comptabilité, technologie d'information, c'était tous des domaines, les ressources humaines, marketing, c'était tous des domaines aussi qu'ils planifiaient embaucher dans ces domaines-là.
La question que je me pose, moi, personnellement, est-ce que c'est que les gens ne sont pas intéressés ou les gens ne sont pas au courant qu'il y a du travail dans ce domaine-là? Ou c'est une question, est-ce que les salaires sont compétitifs? Parce qu'on sait, quelqu'un qui travaille en TI, en technologie de l'information, qui est informaticien, qui travaille en réseautique, des choses comme ça, ont des salaires assez conséquents s'ils travaillent pour des grosses compagnies. Mmh. Est-ce qu'aller travailler chez un concessionnaire, on offre un salaire compétitif ou c'est que vraiment on cherche quelqu'un qui commence dans le domaine parce que le salaire ne sera pas nécessairement équivalent à ce que quelqu'un peut trouver dans une compagnie qui est majoritairement en TI, là?
Non, je dirais que ça dépend vraiment les salaires, ça dépend vraiment des concessionnaires. Mais pour revenir à ta question, est-ce que les gens sont au courant? Pourquoi est-ce qu'on a cette pénurie-là? On a fait un autre sondage au début de l'année qui était très intéressant auprès des milléniaux. Alors, les milléniaux, on s'entend, c'est des personnes qui sont nées environ de 1980 à 2003, vraiment un grand groupe de personnes. Puis, c'était un sondage pan-canadien. Ça nous a indiqué que 68% des gens de ce groupe-là n'étaient même pas, n'avaient jamais vraiment considéré un emploi chez un concessionnaire. Alors ça nous dit que, comme industrie, on a du travail à faire pour promouvoir les possibilités. Parce que quand on parle aux gens qui travaillent dans les concessionnaires, ils sont très satisfaits, c'est des belles places où travailler. Il y a des possibilités de carrière, il y a des possibilités d'avancement, il y a des bons avantages. Il va toujours avoir des jobs dans l'emploi parce que les ventes sont là. Alors, nous, c'est un peu ça le but du programme, c'est de faire et de promouvoir ces possibilités-là à des gens qui sont peut-être même pas des gens intéressés au secteur automobile. C'est peut-être pas des gens qui s'intéressent nécessairement comme passe-temps à regarder les voitures, mais c'est des professionnels dans certains domaines qui ont avantage à explorer ce côté-là. C'est notre semaine de lancement officielle pour le programme, puis on était aux Olympiades canadiennes de métiers et technologies de Compétences Canada à Edmonton cette semaine. Alors, on a pu parler à beaucoup de jeunes personnes qui venaient voir les compétitions. Puis, il y en a beaucoup qui étaient surpris. Ah, OK, il y a des possibilités. Ah oui, c'est pas juste les techniciens, comme on entendait ça toute la journée. Alors, c'est un peu un bon problème de savoir qu'on a beaucoup de possibilités de croissance pour aller chercher des nouvelles personnes.
Une des questions, cependant, on parle beaucoup, puis le sondage l'a prouvé, là, on parlait de 78% qui veulent embaucher des techniciens, donc c'est encore mm-hmm. extrêmement technique. Est-ce que, au-delà du programme et de la promotion des emplois, vous intervenez aussi au niveau de la formation? Parce que je ne peux pas, demain matin, j'ai beau aimer les autos, je ne peux pas demain matin devenir technicien automobile, il faut que j'aille un minimum de formation, là. Donc, est-ce que vous êtes impliqué aussi dans les programmes de formation?
Oui, bien justement, on a un partenariat avec Skills Compétences Canada, puis d'autres groupes. Alors, le programme de carrière auto est assez nouveau, on l'a lancé cette semaine. Mais c'est important pour nous d'avoir des partenariats avec ces groupes-là qui vont au-delà du marketing, qui travaillent vraiment avec les écoles de formation. Donc, avec Skills Compétences Canada, c'est un organisme national, mais ils ont des organismes provinciaux dans toutes les régions aussi. Puis eux autres, leur mandat, c'est de promouvoir les possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. Alors, c'est à travers des groupes qui sont déjà établis dans le domaine, comme ça, qu'on va faire une différence, pas juste au niveau du marketing, mais au niveau de formation. Alors, vraiment, c'est un bon point. Oui, dans ce côté-là, c'est de faire connaître les possibilités aux jeunes et aux gens qui considèrent changer d'emploi, changer de domaine, pour que quelqu'un à l'école secondaire se dise « Ah oui, il y a beaucoup de possibilités chez les concessionnaires, alors je vais faire ma formation dans ce domaine-là. » Puis comme on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire parmi les écoles secondaires, élémentaires, c'est encore la question de « Ok, université, on pousse ça, puis le côté métier spécialisé est pas aussi populaire, mais ça commence à changer, mais c'est vraiment un projet à long terme. »
OK. En terminant, c'est le fun. Il y a des opportunités. On sait qu'il y a des jobs qui sautent. On les trouve où, ces jobs-là? Comment on fait pour savoir
très, très
où il y a des emplois?
Alors, carriereauto.com, c'est notre plateforme. Puis de là, il y a, vous pouvez accéder à tous les différentes provinces, puis un affichage de tous les postes de concessionnaires. Puis aussi, c'est une plateforme qui offre des informations reliées à la formation, reliées aux foires d'événements, reliées au poste comme tel.
C'est bon. Fait qu'on va mettre le lien avec l'émission. Là, les gens qui veulent avoir le lien, juste aller sur le site de Ça roule radio, puis le lien va être dans l'émission. Vous pourrez juste cliquer puis vous rendre sur le site si vous cherchez un emploi dans le domaine.
Et allez voir, il y a des emplois qui sont peut-être dans votre domaine, puis vous ne le savez même pas.
Oui, possiblement.
Exactement.
Ben écoute, merci beaucoup,
merci.
Catherine. On espère que ça va vous aider à recruter, parce que c'est bien qu'il y ait des emplois de qualité comme ça. Alors, voilà qui met fin à l'émission de cette semaine. Émission d'ailleurs numéro 97. Comme vous le voyez, la centième s'en vient. On va essayer de faire quelque chose de spécial. Je ne vous promets rien, cependant. Luc n'a pas accepté d'avoir des photos de lui autographiées.
Ouais.
mais c'est correct comme ça. En terminant, je vous rappelle que cette fin de semaine, rendez-vous à Saint-Zotique. Si vous avez une voiture électrique, c'est l'inauguration des bornes. C'est la dernière fois qu'on vous en parle parce qu'elles vont enfin être inaugurées. Et la raison pour laquelle j'en parle est que Luc est trop modeste. C'est que c'est Luc qui a poussé très fort sur ce projet-là. Donc, je suis très fier pour lui que ça fonctionne. Je vous rappelle aussi qu'en fin de semaine, c'est le Grand Prix du Canada. Si vous avez l'occasion de ne pas aller à Montréal, n'y allez pas. C'est pas nécessaire. Mais d'un autre côté, je vous invite aussi à suivre notre ami Bertrand Godin qui va courir en Formule 1600. Il est allé pratiquer cette semaine. Il a l'air d'un enfant au volant du véhicule. Je ne sais pas s'il va gagner ou pas, mais ça n'a aucune importance. Suivez-le, ça vaut vraiment la peine. Et bien sûr, de notre côté, ben, vous pouvez toujours nous rejoindre. Moi, c'est ma page Facebook. Évidemment, Marc Bouchard, je vous invite à la suivre. Vous verrez des photos de où je vais. Je vous invite aussi à me suivre sur mon blog marcbouchard.ca, sur Instagram, Bouchard-Marc, ou sur Twitter, le contraire, Marc-Bouchard. Et bien sûr, info@saroulradio.com, c'est le courriel que l'on reçoit Luc et moi, et auquel on tente de répondre rapidement. Quant à toi, Luc, on te rejoint comment?
Sur Twitter, Ascalazormo, le compte de Ça roule radio, qui est Ça roule radio. Page Facebook de Ça roule radio, qui est également Ça roule radio, ça tombe-tu bien? Saroule-radio.com, si vous voulez télécharger les anciennes émissions, si vous n'avez pas accès à iTunes ou Google Play. Vous pouvez aussi nous écouter à la radio, sportradio.ca et Radio Média Plus. Et puis, ça fait pas mal le tour aussi. Je voulais juste parler de quelque chose rapidement. J'ai eu un courriel de la firme nationale là, qui fait du relations publiques pour certains événements, qui me parlait d'un monsieur, un citoyen français qui va venir faire la traversée du Canada avec sa voiture, une Citroën Trèfle de 1923. Lui, il va partir de Vancouver le 8 juin. Donc, aujourd'hui, la journée qu'on enregistre l'émission, et va finir sa traversée le 24 août à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Puis c'est pour sensibiliser les gens aux maladies cardiovasculaires, l'AVC et les maladies du cœur. Donc, lui a perdu sa mère et son frère à la suite d'un AVC. Là. Et puis, depuis ce temps-là, il essaie de sensibiliser les gens et ramasser des fonds. Il va parcourir 8000 km seul dans sa Citroën Trèfle de 1923. J'espère vraiment qu'elle est fiable. Parce que
j'espère qu'il va se rendre.
C'est beaucoup de kilométrage. Il va passer à Calgary, Regina, Winnipeg, Ottawa, Montréal le 21 juillet, puis Québec le 28 juillet. Puis après ça, il termine le 24 août, comme je disais, à Saint-Jean, à Terre-Neuve. On lui souhaite bonne chance. Je trouve que c'est une belle initiative. Et puis, je lui souhaite de faire son périple sans trop de problèmes avec sa voiture, parce que c'est pas neuf. Mais bon.
Tu vois, j'étais pas au courant. Je vais m'assurer de rencontrer le monsieur, moi qui est un peu sensible aux choses,
oui.
comme les maladies cardiaques, mettons. je vois ça un peu différemment depuis quelques mois.
Ouais.
Alors, écoutez, si on a l'occasion de mettre la main sur le monsieur, d'aller lui parler, on va le faire, c'est certain.
On enregistrera peut-être une petite entrevue avec lui, puis on mettra ça quelque part dans l'émission. Je t'enverrai le communiqué de presse. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir écouté cette émission cette semaine. Comme Marc dit, c'est notre 97e. Hein, bientôt, on va faire notre 100e émission. C'est quand même un beau petit palier à atteindre. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine.
Bye bye.